Mercredi 3 mars, Djibouti sur Radio Panique. C'est parti, on va parler des peuples autochtones du Brésil. Voilà, bonsoir Hubert, bonsoir Paul, puisque nous sommes sur le 105.4 Djibouti, Radio Panique, eh bien, voilà, l'émission commence. On a invité donc Paul pour nous parler, donc Paul qui fait partie de l'association ICRA et qui organise cet événement au Sangor ce dimanche 7 mars. Quel avenir pour les Amérindiens du Brésil, une après-midi de films, de conférences et un débat. Donc ce sera de 14 à 20 heures au Sangor à Etterbeek, espace Sangor. Donc cette association, Paul fait partie de ICRA. Donc c'est une association qui s'occupe de défendre les peuples autochtones un petit peu partout dans le monde. Et peut-être on pourrait déjà, pour commencer, on vous renvoie de toute façon au site d'ICRA où tout ça est un petit peu expliqué, puisque les peuples autochtones sont les descendants des premiers habitants des terres sur lesquelles ils vivent. Donc voilà, c'est dit très clairement sur le site. Alors ce qu'on peut rajouter, que ces peuples sont souvent sous une domination culturelle, économique et sociale. Ils sont minorisés politiquement dans des États-nations qui parfois les reconnaissent, parfois pas totalement, les reconnaissent comme peuples distincts, avec leur propre organisation socio-culturelle, leur mode de vie. Et il y en a beaucoup. Hein, quand on va sur le site, on voit que ça situe partout dans le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement de l'Amérique latine et du Brésil, puisque cet événement se préoccupe de ce qui se passe au Brésil, où c'est une situation assez particulière, puisqu'on a énormément de ressources naturelles, l'Amazonie, et que les Indiens qui vivent dans ces endroits, souvent, eh bien, ils ont... leur population déjà a fortement diminué. Bon, à partir de 70, ça s'est un petit peu amélioré. L'État s'est préoccupé de leur existence, de leurs conditions de vie. Mais même si la population a réaugmenté, ils ont quand même perdu une grande partie de leur population.
Oui, tout à fait. Bon, en fait, la problématique pour les Indiens du Brésil, bon, elle a réellement démarré à partir du moment où le Brésil a été découvert par l'homme blanc. Donc ça remonte à il y a quand même plus de 5 siècles maintenant. Et que les premiers touchés ont été évidemment les peuples de la façade atlantique, hein, puisque le Brésil est bien baigné par l'océan Atlantique. Et qu'on est passé effectivement très rapidement d'une population de plusieurs millions d'individus. Bon, les experts ne savent pas trop exactement. Donc, y a des, je dirais, des estimations plus ou moins variables. Effectivement, au début du XXe siècle, on parlait carrément d'extinction en disant, voilà, ben, les Indiens, ou les Amérindiens plus exactement, du Brésil vont purement et simplement disparaître. Donc plus personne ne misait un copec sur ces populations. Et moi, ben, quand j'étais gosse, je m'étais fait à l'idée que ces gens allaient complètement et définitivement disparaître avec toute leur richesse culturelle. Ces peuples qui font un petit peu rêver, il y a toute l'imagerie des peuples qui vivent au cœur de la forêt amazonienne, chasseurs, les sarbacanes, etc. Les parures de plumes qui sont absolument fabuleuses à voir en image. Donc tout ça, ça fait un peu rêver. Et puis effectivement, à un moment donné, on a eu très très peur d'une disparition très rapide parce qu'on a parlé d'ouvrir l'Amazonie à la colonisation. Donc il y avait un régime militaire à l'époque au Brésil qui a reçu paradoxalement de l'argent du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc. pour coloniser l'Amazonie en disant bah, c'est de la forêt, il n'y a rien, il n'y a personne. Hein, c'est pas les quelques Indiens qui vont s'opposer au développement. Et on a décidé de les sacrifier sur l'autel du développement, finalement, quelque part, avec notre argent, en finançant avec l'argent des Européens, des Américains, etc. Et donc, on a décidé de faire notamment une fameuse route transamazonienne, en fait, tout un réseau routier. Et là, des peuples qui n'avaient jamais été contactés par le monde extérieur, bah, tout d'un coup tombaient malades, des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Et on a des peuples qui sont passés, des petites tribus de 600-700 personnes, se retrouvaient tout d'un coup avec à peine 150 survivants, tous les anciens décédés, donc tous ceux qui connaissaient la coutume, la tradition décédés, des gens plus jeunes complètement perdus, sachant pas comment réagir. Et on s'est dit, là c'est foutu. Hein, cette transamazonienne et cette colonisation des paysans sans terre que le gouvernement envoie en leur donnant un lopin de terre en disant de toute façon, il n'y a personne, c'est à vous. Évidemment, rentrer aussi en conflit avec les Indiens. Et puis, bon, ben, les coups de feu partaient. On a empoisonné les Indiens. On leur a donné des vêtements qui étaient aussi contaminés par toutes sortes de maladies, en sachant que ça allait les tuer. On leur envoyait aussi des missionnaires, hein, pour casser définitivement leur tradition. Mais les missionnaires, dans certains cas aussi, ont essayé de sauver les meubles. Donc là, c'est un peu plus ambigu. Et puis, miracle, finalement, malgré cette situation très noire, il y a quand même eu aussi des gens qui se sont préoccupés de la situation des Indiens. Et petit à petit, si certains groupes ont disparu, d'autres ont commencé à se redévelopper au niveau démographique. Et donc, on ne parle plus du tout maintenant d'extinction des populations indiennes, mais on parle même d'une, si pas d'une renaissance, en tout cas au moins d'une renaissance démographique, peut-être pas culturelle, mais démographique. Et encore, c'est très variable d'un groupe à l'autre.
Donc c'est vrai que tu nous balades déjà un peu dans les époques. Là, tu parles des missionnaires, des paysans sans terre. Les paysans sans terre, c'est récent.
C'est maintenant.
Maintenant. C'est l'État qui les soutient. Et les missionnaires, c'était...
On est en plein dedans. Voilà. Non, on est en plein dedans. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, bon, il y a eu effectivement une première vague de missionnaires, bon, bah, globalement, qui sont arrivés avec les Portugais. Donc évidemment, des missionnaires catholiques. Hein, ça c'est depuis toujours. Et ça s'est fait plus ou moins, d'une façon plus ou moins... surprenante, notamment chez les Guarani, ceux qui ont vu en leur temps le film Mission montrent carrément la création au Paraguay voisin d'une véritable république indépendante des Guarani, qui était bien sûr basée sur la culture Guarani d'un côté et la culture chrétienne un peu enrégimentée pour le progrès de l'homme indien. Dans une civilisation quasiment tout à fait unique qui s'est créée avec ces missions. Et il reste maintenant des ruines de ces missions qui sont classées patrimoine mondial, une aventure humaine complètement extraordinaire. Ceci étant dit, maintenant on a affaire à une toute autre forme de missionnariat, généralement des sectes américaines, ultra-fondamentalistes, et ces gens viennent, souvent ils se présentent comme des linguistes en disant « hop, une nouvelle tribu qui vient d'être découverte ». Chouette, on se précipite là-dessus en demandant un petit peu l'autorisation de faire des recherches scientifiques. On fait un petit dictionnaire, on fait un lexique, on étudie la langue. Le premier bouquin qui sort, évidemment, c'est la Bible. On convertit les gens, on interdit les chants traditionnels, on les habille, Il y a eu des cas d'ailleurs très très graves de non-intervention sur un peuple qu'on appelle les Potourous, qui est un peuple qui a complètement décliné au niveau nombre de personnes, parce que les gens mouraient de maladie, mais celles, les missionnaires américains en question, ne s'en préoccupaient absolument pas, et ont continué à faire leur travail d'évangélisation en disant bah, « oui, ben, ils disparaissent, mais c'est qu'ils ont fricoté avec Satan, et c'est la punition du bon Dieu quelque part ». Donc c'est des gens qui ont une vision excessivement simpliste et agressive. C'est des gens qui viennent souvent du Middle West américain avec effectivement toute cette vision, Satan d'un côté, donc les tribus qui respectent leurs dieux, leurs esprits, donc c'est mauvais. Et ces gens sont toujours à l'œuvre et d'une façon relativement dramatique, puisqu'ils arrivent à complètement enrégimenter les gens, interdisent la coutume, et on retrouve des gens qui sont enrégimentés dans des églises plusieurs fois par semaine, des petits temples adventistes du septième jour, et j'en passe, et des meilleurs. Et là, c'est un véritable drame à la fois culturel, on parle vraiment d'ethnocide à ce moment-là, c'est la destruction d'une culture, et puis ça casse complètement les gens qui ressentent ça comme vraiment l'ultime viol de leur âme après leur avoir volé leur territoire. Après l'avoir saccagé, détruit la forêt, créé des routes, amené des colons, les gens parlent du temps d'avant, mais le temps d'avant, c'était parfois il y a 20 ou 25 ans, et puis ils disent ben maintenant, nos chamans, on les accuse d'être des sorciers, le dernier est décédé, de toute façon, c'est pas bien, et les gens, les chamans, les gens qui connaissent la coutume sont parfois chassés du village une fois que les gens se convertissent, parce qu'il y a une telle pression des missionnaires fondamentalistes qu'il y a vraiment des drames familiaux, des drames humains qui se passent. Et là, on est en plein dans cette problématique à l'heure actuelle. Et c'est une des grandes menaces sur beaucoup, beaucoup de peuples autochtones. Et c'est mondial, avec d'énormes moyens financiers. Un bel exemple, il y a quelques années, j'étais en Mongolie, dans un campement nomade en Mongolie. J'entends du bruit, j'entends une expression typiquement américaine, donc je me dis, mais c'est quoi, je sors de ma yourte, quoi, donc, et le gars, c'était un missionnaire américain qui venait déposer des petits cahiers illustrés, genre des petites bandes dessinées, qui montrent effectivement que si on est bouddhiste ou si on respecte la religion traditionnelle en Mongolie, eh bien, on va brûler en enfer avec des images assez horribles et toutes les familles sont soumises en permanence à ces visites de missionnaires, mais qui viennent aussi avec des arguments. Si vous vous convertissez, on va vous soigner, on va payer les études des gosses, vous aurez des vêtements. Donc, ils ont les moyens de leur politique.
Mais quel est l'intérêt de ces missionnaires, en fait ?
L'intérêt de ces missionnaires, il y a un très, très, très bon bouquin qui s'appelle « Is God an American ?», donc un bouquin effectivement en anglais qui pose la question « Est-ce que Dieu est un Américain ?» et qui parle de ces différentes sectes missionnaires qui sont très très nombreuses mais qui sont visiblement liées à des intérêts sous-jacents. Le problème, si on veut, de ces peuples autochtones d'Amérique latine, donc du Brésil, mais aussi d'Équateur ou d'ailleurs, c'est qu'ils sont sur une formidable richesse, pas seulement en espace vital, mais aussi parce que la terre, le sous-sol de la forêt peut regorger de pétrole notamment. Par exemple, en Équateur, il y a de formidables ressources en pétrole, il y a du gaz naturel, il y a les ressources hydroélectriques, tous ces grands fleuves sur le bassin amazonien.
Et c'est de ça qu'on parle en général, j'ai l'impression.
Voilà,
on entend moins souvent parler quand même de ce dont tu parles, les missionnaires, tout ça. On en entend moins parler, non ?
Exactement, mais les deux problématiques sont liées parce qu'on pense, quand on étudie les sources de financement de ces groupes missionnaires, que des grosses sociétés américaines financent directement les missionnaires parce que les missionnaires sont vus comme des pacificateurs. Il n'y a rien de plus emmerdant pour une société qui veut exploiter une zone que d'avoir des gens qui sont encore en train de courir dans la forêt et qui sont susceptibles d'aller flécher des prospecteurs, des gens qui viennent faire des relevés et de créer des conflits. Et puis quand il y a des gens qui sont reconnus sur leur territoire, il faut partager. Et ça, c'est un problème qui n'est pas toujours très apprécié des actionnaires ou des états-majors des grandes sociétés. Et donc, on préfère généralement faire place nette d'une manière ou d'une autre. Parce que souvent, la sédentarisation peut aller aussi avec des phénomènes de déplacement de population. En disant, finalement, vous n'avez plus besoin d'un grand territoire. Si vous n'êtes plus des nomades chasseurs-cueilleurs, on va créer un village. Et puis, vous allez regrouper là-bas. Et puis, on va vous donner quelques hectares autour du village. C'est ce qui est arrivé à beaucoup, beaucoup de communautés guaranies au Brésil, par exemple.
Tu veux dire, ces missionnaires, c'est un peu l'avant-poste qui prépare le terrain pour un envahissement futur.
C'est une avant-garde. C'est une avant-garde, pavée de bonnes intentions. Moi, je pense que ces missionnaires sont des gens certainement bien intentionnés, mais qui ont leur façon de penser qui est très éloignée, je dirais, quand même, de la plupart des Belges. Sauf peut-être quelques-uns qui...
On en trouve ici, en tout
cas. Il y a des gens qui se sont convertis, qui trouvent tout à fait leur compte, mais ma foi, pourquoi pas.
Pas des mormons, mais pas loin.
Voilà, mais il y a vraiment de tout.
Les témoins de Jéhovah sont ici.
Il y a quantité...
Tout près de chez nous, d'ailleurs, à Saint-Gilles.
Il y a quantité de...
Bon, là, Hubert, je te les présenterai à l'occasion.
Il y a quantité de groupes qui viennent, effectivement, avec leur personnalité, leur mentalité, leur vision des choses. Ils sont persuadés d'apporter le bien. Moi, j'en suis pas du tout convaincu, et ICRA International non plus, parce qu'on voit que ces gens font d'énormes dégâts au peuple et aux dernières cultures traditionnelles de la planète. Et on est en train de détruire ces cultures qui font partie du patrimoine de l'humanité. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un peuple amérindien du Brésil perd ses traditions, c'est pas seulement des jolies petites chansons, du folklore, des croyances, ils croyaient les étoiles, les esprits, etc. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Une culture traditionnelle, c'est une cohésion sociale d'un groupe. Et quand une population traditionnelle perd sa culture, elle perd sa cohésion sociale, elle perd ce qui lui tient lieu, finalement, de seule et unique sécurité sociale. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir des familles éclatées, des tribus éclatées. Une tribu, c'est quoi? C'est une ethnie, c'est un ensemble de grandes familles, des clans qui se connaissent et qui trouvent un certain équilibre de vie. Si on détruit cet équilibre, c'est le chacun pour soi. Des gens commencent à profiter des nouveaux arrivants, d'autres se font complètement avoir et finissent par tout perdre. Et leur âme, ils sombrent dans les problèmes d'alcoolisme, les filles qui deviennent des prostituées parce qu'il y a des chantiers avec des bûcherons, etc. etc.
Et donc, excuse-moi Paul, par rapport à cette intervention des missionnaires, je voulais te poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Parce que voilà, toi... On vient d'en parler et boum, ça tombe sur la table. Donc moi, je suis au courant des grosses interventions des multinationales sur les barrages, etc., etc. Les missionnaires, je le sais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des rapports des ONG qui s'intéressent plus précisément à tout ça? Je sais, j'ai également lu par ailleurs que dans certains sites comme Rizal, qui a énormément d'informations sur l'Amérique latine, que par exemple en Équateur, le mouvement indigène est manipulé par des ONG qui finalement s'incrustent un petit peu dans les peuples, dans ces populations indigènes, et puis leur font miroiter des subsides et leur font laisser tomber leur travail à eux, leurs choses à eux qui les fait vivre. Et puis après, ils sont dépendants des subsides, on vous coupe vos subsides ou bien machin, brol, ciao quoi. Donc est-ce que finalement ça, le missionnaire n'est peut-être pas seulement l'homme d'église avec sa croix, mais il y en a d'autres dans le panier quoi aussi. Je veux pas spécialement qu'on s'étende trop là-dessus parce que mais assez brièvement, je ne sais pas ce que.
Non, mais c'est sûr qu'il y a toute une, c'est le cas de le dire, il y a vraiment toute une faune de gens qui traînent dans la forêt, si on peut dire. Et ça va effectivement des riches propriétaires, des gros propriétaires qui se sont accaparés des dizaines, des centaines de milliers d'hectares, qui se disent que de toute façon, la forêt, globalement, ça vaut rien. Éventuellement, on va exploiter quelques arbres précieux. Mais sur une forêt, il y a relativement peu d'arbres précieux. Donc finalement, le plus intéressant, c'est de tout brûler parce que beaucoup de ces propriétaires terriens sont aussi de grands éleveurs. Donc on va développer simplement des pâturages. On rase, on brûle la forêt pour faire des pâturages. Ou alors, et c'est vraiment un phénomène qui se généralise maintenant, c'est la production de soja OGM. Il faut savoir qu'en Amérique latine, on produit énormément d'organismes génétiquement modifiés qui nous reviennent chez nous. Sous une forme ou une autre, parce que on va fabriquer avec ces produits, par exemple, de l'aliment pour le bétail, qui va être importé tout à fait légalement en Europe, qui va permettre de rentrer dans le cadre de de l'agriculture industrielle chez nous. Donc on est très loin d'une agriculture paysanne ou biologique. La personne qui veut avoir son litre de lait le moins cher possible ou son steak le moins cher possible, mais finalement, quelque part, rentre dans cette... mondialisation à outrance, où on a détruit et on continue à détruire la forêt, dont l'équilibre écologique de la planète dépend complètement, donc notre survie à moyen terme. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, c'est plus facile, parce qu'on se pose pas de questions. Et c'est justement là-dessus que travaille une des intervenantes de cet après-midi, qui est Babi Avelino. C'est une toute jeune brésilienne qui habite ici en Belgique francophone. Et Babi se passionne pour les peuples amérindiens de son pays, mais aussi dans la perspective de pas seulement de la sauvegarde de la culture, mais de tout ce qui se passe par rapport à ces champs d'agriculture industrielle OGM. Et c'est assez étonnant de voir, d'ailleurs, des photos satellites de certaines zones de l'Amazonie, où il y a 20 ans, on n'avait que de la forêt. Et puis maintenant, on voit des zones qui sont des zones totalement déforestées. Et puis on dit, tiens, c'est marrant, il reste une petite zone ici, il y a de la forêt, c'est quoi ? Et puis alors après, ah, mais c'est la réserve autochtones de tel peuple, parce qu'eux ne touchent pas à leur forêt. Eux, ils en vivent, je dirais, d'une façon encore semi-traditionnelle, s'ils ont des espaces suffisamment grands. Et donc, on va avoir des films qui vont parler un petit peu de cette problématique.
Donc, le film, notamment, Hello, de Babi Avelino, qui passera à 14h30 dans le cadre de cette programmation. Je pense qu'on pourrait peut-être faire une petite pause musicale, Hubert, et puis on reviendra sur quelques éléments par rapport à ces Indiens du Brésil, notamment, et d'Amérique latine également. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
On vous a trouvé de la musique des Amérindiens d'Amazonie. Alors là, c'est une tribu qui s'appelle les Assurini do Trocara, et c'est de la musique instrumentale, écoutez ça.
Voilà, avec les Indiens du Brésil, et une sélection de notre ami Hubert, voilà, sur Djibouti 105.4. Mais donc, c'est vrai que bon, par rapport à cette thématique des Indiens, il y a quand même eu énormément de choses qui en ont parlé, que ce soit des films comme La Forêt d'Émeraude, ou bien qui est déjà assez vieux quand même, dans Courrier International assez récemment, il y avait un dossier spécial. Bon, il y a Sting qui s'est beaucoup investi, évidemment, au Brésil depuis assez longtemps, d'ailleurs, enfin les années 80, dans ces eaux-là, quoi. Il a fait une tournée pour récolter des fonds.
Avec Raoni, le célèbre
voilà,
Raoni, hein.
Le chef d'une tribu.
Exactement, oui.
Alors, c'est vrai que la situation du Brésil est quand même assez particulière, puisque, bon, on a déjà un petit peu évoqué, mais il faut dire que c'est une situation particulière parce que les populations indiennes, donc déjà, représentent un très faible pourcentage de la population, c'est 0,1%, donc c'est comme on l'a dit, ils sont vraiment pas très 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 nombreux. Mais en plus, bon, ils sont hyper divisés. Il y a des milliards de tribus. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas loin, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial. Alors, on n'a pas encore parlé des réserves, mais c'est la manière dont les Brésiliens ont décidé d'intervenir par rapport aux populations indigènes. C'est-à-dire que, en fait, ils ont un statut un petit peu spécial, les Indiens. Donc là, je me réfère à Wikipédia, qu'ils appellent dérogatoire. Bon, alors, c'est à part une petite minorité, ça, ils ne disent pas qui, mais peut-être qu'on pourra approfondir, je ne sais pas. Ils sont considérés comme des mineurs protégés, dépourvus de droits civiques. Et donc, en fait, ils sont protégés par la FUNAI, qui est la fondation de l'Indien, qui fait partie en quelque sorte du gouvernement, quoi, et qui protège les Indiens. Donc voilà, j'insiste quand même, ils sont dépourvus de droits civiques. Enfin, ça, c'est à nuancer, tout à fait. Bon, mais justement...
Ça a évolué.
Voilà.
Ça a évolué, et heureusement...
Ah, donc Wikipédia n'est vraiment pas à jour, quoi.
Ouais, il me semble.
C'est toujours pas où ils vont prendre leurs sources, mais en tout cas, il y a du boulot, là.
C'est toujours le danger des sources internet.
Leurs sources financières, je parle. Hein.
Oui, ça, c'est encore autre chose. Bon, mais non, globalement, d'une manière générale, et heureusement, le statut évolue tout doucement. Mais c'est vrai qu'on a peine à imaginer qu'il y a encore quelques années à peine, donc quelques décennies, les Indiens, ou les Amérindiens, parce que le terme est plus exact, les peuples autochtones, même souvent un petit peu partout dans le monde, même en Australie avec les aborigènes, hein, donc c'est un phénomène un petit peu généralisé, n'avaient pas d'autre statut finalement qu'un mineur d'âge aucun droit. Donc finalement, oui, il y avait un paternalisme absolu. Et donc, on avait cette fondation nationale qui devait s'occuper des affaires indiennes, un peu comme aux États-Unis, le Bureau des Affaires indiennes. Et c'était des gens qui ont eu quelque part une certaine utilité, qui ont joué leur rôle un petit peu de tampon pour essayer d'éviter que le rouleau compresseur arrive trop vite, essayer d'établir les premiers contacts, mais établissez les premiers contacts pour ensuite régler le problème en laissant les missionnaires intervenir et en préparant les colonisations. Donc globalement, maintenant, ce qui se passe, c'est un phénomène qui est très très important au Brésil ou dans toute l'Amérique du Sud, dans tout le bassin forestier en tout cas, les peuples autochtones revendiquent, s'organisent, ont des congrès intertribaux, donc interethniques, et ils vont revendiquer. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que les peuples d'une région dont on va parler d'ailleurs dans ce dimanche après-midi, la région, le parc du Xingu, ont été des gens qui très très vite ont réussi à comprendre l'intérêt des médias. Et ils ont réussi à capter l'attention des médias d'une part, mais aussi à dire « mais on en a marre de tous ces gens, de tous ces politiciens qui viennent de Brasilia, la capitale du Brésil ». Pour nous faire tout un tas de promesses qui ne seront jamais tenues. Et donc, quand ils avaient des officiels qui venaient discuter avec eux, leur faire des promesses, ils ont commencé à sortir des radiocassettes. Ils ont commencé à sortir des petites caméras. et en disant, voilà, vous nous avez promis ça il y a un an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, et on n'a toujours rien vu venir. Et puis, il réinvestissait régulièrement, il montait sur Brasilia pour aller voir les ministères. En tenue traditionnelle, bon, quelque part, ça dépotait d'avoir des gens qui débarquent dans une ville qui se veut ultramoderne et avoir des gens qui viennent en grande tenue de cérémonie avec les plumes, les peintures corporelles, les arcs et ainsi de suite, mais qui viennent pour discuter de choses extrêmement sérieuses en disant c'est de notre survie dont on parle. On veut qu'on respecte nos terres. Si on n'a pas de terre démarquée, donc de réserve fixée, on veut absolument une réserve. Et si on a déjà une réserve, mais qu'on a des gens qui y pénètrent pour s'installer, faire de l'orpaillage, donc chercher de l'or en polluant les rivières avec du mercure, hein, c'est la conséquence directe, ou bien qui viennent couper des arbres ou chasser illégalement, il faut les chasser, parce que si le gouvernement ne fait pas respecter les frontières, nous, on va les faire respecter, et il va y avoir des conflits. Et c'est ce qui se passait fréquemment, c'est-à-dire que assez régulièrement, jusque dans un passé récent, et c'est encore susceptible d'arriver, on a des gens qui peuvent se faire tuer par des populations amérindiennes complètement excédées, qui disent « mais voilà, nous, on nous a fait des promesses, on nous a dit qu'on avait une terre à nous, et on continue à être envahis par des gens qui sont tout sauf respectueux de nous-mêmes, et
donc, en fait,
la violence par... agir.
En fait, au fond, ils revendiquent quoi ? Vraiment, le fond de leur revendication, c'est quoi ? Qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur laisse un territoire
Je dirais essentiellement, c'est évidemment d'avoir un territoire à eux, par ethnie, et d'avoir une certaine autonomie. Donc, ils ne demandent pas l'indépendance. Ils ne demandent pas non plus une mise sous cloche en disant on veut vivre exactement comme on vivait il y a encore 1, 2 ou 3 générations. Ils peuvent très bien dire, mais voilà, nous, la médecine nous intéresse, la scolarisation est intéressante, mais au moins un territoire, une certaine dignité, une certaine reconnaissance et pouvoir discuter, je dirais, d'égal à égal, même si c'est assez surprenant comme revendication. On peut avoir affaire à des ethnies qui ne font que 300, 400, 500 individus et qui veulent discuter d'égal à égal avec une nation de plus de 200 millions de personnes. Mais eux voient les choses à l'échelle de leur forêt, de leur village, en disant « voilà, nous, ce territoire, il nous appartient depuis des milliers d'années. Vous, vous êtes arrivés par la mer il y a à peine 5 siècles. Vous êtes là, on vous reconnaît, mais respectez-nous. Ne venez pas pour nous tuer, nous détruire. On veut une reconnaissance. » Et c'est ça qui est le plus important. C'est un combat pour la dignité, c'est un combat pour la reconnaissance de leur culture, mais c'est surtout une question... de terre. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de ça. Les situations sont très, très variables. Bon, on a quand même à peu près 700 000 Amérindiens au Brésil, 215 peuples, 188 langues. Donc, ça fait quand même une situation bien complexe en définitive. Et puis, il n'y a aucun peuple qui vit la même situation. On a encore des groupes, des petites tribus non contactées. Donc, des gens qui n'ont encore absolument aucun contact. On parle de 30 à 50 groupes en forêt qui n'ont absolument aucun contact, si ce n'est peut-être épisodique avec quelques gens qui circulent en forêt parce que bon, il y a des trafiquants, il y a tout un tas de gens qui se baladent quand même en forêt.
Et justement à ce sujet, un des rôles de la FUNAI, de cette fondation de l'Indien, est d'essayer de contacter, d'approcher ces tribus pour que le contact soit le moins traumatique possible.
C'est-à-dire exactement.
Que voilà, que avant que ce soit un arbre qui leur tombe sur la tête, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur parle, quoi, j'imagine. Enfin...
Exactement. Et puis on a des populations qui, elles, ont déjà un territoire reconnu, et on a notamment ce fabuleux territoire du Xingu dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on a un film qui a été réalisé par les Yawalapiti, qui sont une de ces populations tribales du Xingu. Bon, alors, leur situation est relativement aisée par rapport à d'autres. Ils peuvent dire on a une terre, on a une certaine reconnaissance. Tout autour de notre forêt, tout ce qui n'a pas été protégé pour eux a d'ailleurs été complètement détruit pour faire des cultures d'OGM. Donc il y a une espèce de véritable îlot comme ça, une oasis, un bout de forêt survivant avec un ensemble de quelques petites tribus survivantes qui occupent cette région du Xingu et qui sont un véritable conservatoire des traditions amazoniennes.
Et donc, justement, enfin, je sais pas, je relançais un peu la question de la du côté un peu problématique de ces réserves, entre guillemets, même si tu montres que les Indiens sont sujets, que tu vois, ils se manifestent, etc., qu'ils ont des revendications. Bon, moi, je parlais au niveau juridique, hein, voilà, de ce côté-là. Il y a quand même un petit manque au niveau juridique, parce que, bon, on parle d'îlots, mais quand tu parles de culture d'OGM, ben, j'ai vu des films au Mexique, les OGM, enfin, voilà, au maïs, par exemple, ça voyage vite, donc c'est pas très compliqué, la barrière peut-être sera franchie, quoi. Donc là, par exemple, au niveau limite, c'est difficile de vraiment garantir une véritable limite, quoi, pour les Indiens. Pareil pour les paysans qui s'emparent de leurs terres, etc. Ils n'ont pas facile, quoi. Et donc, c'est vrai que... Enfin, c'est un petit peu le territoire, comme tu dis, quoi. C'est un petit peu... La base de. On leur garantit, mais on ne sait pas pendant combien de temps et jusqu'à quand. Parce que, bon, on voit que de l'autre côté, il y a les intérêts, il y a les volontés d'intervenir, etc. Et eux, ils disent non, on ne va pas sanctuariser le territoire national.
Oui.
C'est toujours Wikipédia, hein, mais bon, on comprend quand même un petit peu, quoi.
Il y a une nouvelle donne et qui fait, enfin, personnellement, ça fait froid dans le dos. Pourtant, ça vient d'un personnage qui est très respecté, très respectable à mon sens, qui est le président actuel, donc le président Lula, et qui a déclaré, mais il y a quelques mois à peine, donc c'est tout récent, et cette nouvelle est passée complètement inaperçue, je pense, que quelque part, c'était un peu la fin de la récréation et que les populations qui avaient déjà leur territoire démarqué, donc qui ont des réserves, hein, si on peut parler comme ça, n'allaient pas continuer à vivre tranquillement dans leurs réserves et qu'il était temps de s'ouvrir à l'économie de marché, par notamment le biais du tourisme, l'exploitation de leur territoire, etc. Ce qui est complètement à l'opposé de ce que veulent ces populations qui disent « mais nous, les touristes, on n'a pas envie de devenir des objets folkloriques ». On n'a pas envie d'être soumis à une des premières industries de la planète qui peut être très destructrice pour des petites populations qui ont déjà bien des difficultés à conserver leurs traditions. Si en plus on en fait un objet de marché, un objet de marketing, ça devient littéralement intenable pour pas mal de populations. Et puis ça veut dire quoi l'économie de marché? Ça veut dire quoi vendre la forêt? Donner des autorisations de détruire ce qui reste de forêt pour permettre à des gens de venir faire d'autres cultures OGM, puisqu'il n'y a plus de place ailleurs, en échange de quelques royalties éventuellement.
En même temps, quelle est pour ces populations indiennes l'image du progrès, sur quelle échelle de progrès, de développement, eux se situent eux-mêmes?
Waouh. Alors là, c'est la grande question, parce qu'il y a pratiquement autant de réponses que de populations. Moi, je dirais, il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de visiter un village Guarani, ce qui n'était pas au Brésil, mais les Guarani sont répartis sur de nombreux pays d'Amérique du Sud. Alors eux, si on leur pose la question, ils disent « mais nous, on est encore en pleine catastrophe, on est en plein traumatisme, on avait de la forêt il y a deux générations ». Et puis maintenant, il n'y a plus rien. On est sur un confetti qu'on appelle une réserve, mais ça ne représente pas un centième de notre territoire. On vit dans des baraques en planches, on est perclus de maladies, on ne trouve plus les plantes médicinales. On a constamment des hôteliers qui veulent acheter qui veulent nous chasser de notre terre parce qu'ils estiment qu'on pourrait faire un bel hôtel à la place. Bon, c'est un village qui est situé près d'une zone assez développé au niveau touristique. Et les gens disent, mais ça, c'est une catastrophe totale. Nous allons avoir un film tout à fait exceptionnel qui va passer à 18h, qui s'appelle Birdwatchers, qui parle justement de ces Guaranis du Brésil. Eux, ils n'ont pas tellement de problèmes de développement touristique, mais ils ont surtout les problèmes de gros propriétaires terriens qui, d'une part, les font travailler pour des salaires de misère. On parle de quasi-esclavagisme. Et on a, au niveau de ces Guaranis, un taux de suicide qui est complètement alarmant. Toute la jeunesse se suicide chez ces Guaranis. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de terre. Oui, ils ont une terre, mais tellement insignifiante en territoire que leur mode de vie traditionnel n'est plus viable. Et ils ont en plus des menaces constantes des politiciens, des gros propriétaires terriens qui viennent les mettre au travail et réclamer le peu qu'il leur reste. Alors eux, quand on leur parle de leur niveau de développement ou de progrès, il n'y en a pas. Ils ont en plus dans leur communauté effectivement cette problématique des missionnaires qui vient s'attaquer à la dernière chose qui leur reste, qui est leur culture et leur tradition, ouais. Du moins le peu qui reste. Ouais. Alors effectivement, pour eux, il n'y a pas grand-chose. Par contre, au niveau du Xingu, hein, on a un film qui a été réalisé donc, par une population qu'on appelle les Yawalapiti, une petite population tribale très traditionnaliste. Alors, eux, ils sont plus à l'aise parce qu'ils ont un choc moins grand, ils ont un territoire suffisamment vaste, ils vivent encore de la forêt. Ils ont des royalties qui viennent de l'exploitation de certaines de leurs ressources, mais ils les utilisent, je pense, relativement bien. Ils ont aussi des gens qui se sont battus, des Brésiliens, les frères Villas Boas, qui se sont battus pour amortir le choc de la rencontre avec la culture occidentale. Et eux traitent beaucoup plus d'égal à égal, en disant, ah. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du cinéma pour montrer nos traditions. On veut sauvegarder notre culture, mais on va utiliser tous les moyens modernes possibles et imaginables. Et donc, à un moment donné, ils nous ont contactés. Ils ont contacté la petite association dont je m'occupe, qui s'appelle ICRA, en disant, voilà, on voudrait faire un film sur une cérémonie qui a lieu toutes les X années. C'est un événement important. On n'est pas sûr qu'il va arriver à se transmettre comme ça pendant des décennies. Et donc, on veut absolument le filmer pour le montrer aux futures générations et puis aussi au monde extérieur, pour qu'on puisse nous connaître. C'est une demande de reconnaissance aussi. Et quelque part, capitaliser sur l'avenir, valoriser leur culture pour leurs propres enfants, parce qu'ils ont compris que cette culture, c'est leur plus grande richesse avec leur terre.
Et puis peut-être se faire reconnaître, c'est un certain gage de sécurité aussi.
Évidemment, on massacre des gens qui n'ont pas d'amis. Voilà. Et la plus grande des catastrophes qui puissent arriver à ces peuples, c'est de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de gens qui connaissent leurs problématiques, qui n'ont pas un minimum de sentiment de solidarité. Parce que ce qui fait disparaître les populations indigènes dans le monde, que ce soit les Maasai au Kenya ou en Tanzanie, les aborigènes d'Australie, toute une série de petites populations dans le monde, et ici au Brésil qui nous intéresse particulièrement, c'est pas seulement des gens qui viennent couper les arbres ou bien polluer les rivières ou chasser les gens d'une manière ou d'une autre. Leur plus terrible ennemi, c'est quelque part notre indifférence. Parce qu'on laisse faire. Et si on laisse faire, c'est foutu, il n'y en aura plus. Et justement, ce qui se passe, c'est que non seulement eux s'organisent pour communiquer, pour faire des films qu'ils vous invitent à venir découvrir, ici à Bruxelles, parce qu'il y a des gens comme Babi Avellino qui prennent un peu leur bâton de pèlerin, leur caméra, leur appareil photo, en disant voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut découvrir, à la fois au niveau richesse culturelle, beauté de ces gens qui sont extraordinairement intéressants, qui ont des choses à nous communiquer, à nous apprendre sur un certain sens de la vie, une certaine relation avec le monde, avec la nature. Je pense que c'est pas une façon de dire on est là pour se culpabiliser bêtement, c'est pas le but du jeu évidemment. On est là pour dire voilà, il faut qu'on se rencontre, qu'on discute de ces choses-là, qu'on s'enrichisse mutuellement, et puis surtout qu'on ait un peu cette chaîne de solidarité ou simplement se rendre compte que nos modes de consommation, même éventuellement, peuvent directement influencer sur la destruction des forêts et des peuples qui y vivent. Et ça, je crois que c'est important.
Et à part prendre Aymeric, je te laisse peut-être. Tu as.
Bah écoute, je pensais qu'on va petit à petit se diriger vers une pause musicale, ouais. Petit à petit. Et puis voilà, après revenir avec quelques mots sur l'association, puisque on découvre déjà certaines personnes comme Babi, voilà, qui fait du film, et on comprend aussi comment et pourquoi certains projets sont développés, privilégiés. Donc voilà, on en parlera un petit peu après cette pause musicale. Et c'est vrai, moi je voulais juste réagir par rapport à ce que tu as dit de ce lien entre les tribus, ce que j'avais peur de cette histoire de réserve, qu'en même temps ils aient du mal à communiquer entre eux, quoi, qu'ils soient quelque part aussi parqués, et le danger est là, quoi. Donc leur isolement et tout ça, pas comme au Mexique où bon, il y a eu quand même un mouvement assez fort qui a essayé de rassembler tous les Indiens du Chiapas, et voilà.
Non, les peuples communiquent énormément entre eux, et c'est très très important parce que ça leur permet parfois de parler d'une seule voix, de se mobiliser d'une seule voix. C'est pas évident, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre sur pied petit à petit, mais qui leur donne évidemment beaucoup plus de poids, surtout avec l'appui d'associations, de gens qui, comme nous, sont intéressés et qui viennent un petit peu décupler leur voix, tout simplement.
Sont intéressés et en même temps indépendants.
Oui, bien sûr.
On en dira un mot.
Oui, tout à fait, oui.
Ok, alors on va aller vers cette pause musicale dont on parle. On va aller vers les Indiens, les Bororo. Et c'est un morceau de son des rombes, qui est un instrument tout à fait particulier, qui fait des sons tout à fait particuliers. Écoutez ça, c'est vraiment très étonnant. Alors voilà, vous êtes sur Djiboutique comme tous les mercredis soirs, Radio Panique 105.4. Djiboutique tous les mercredis entre 18 et 19h. Et vous pouvez écouter les émissions sur le site de Djiboutique, www.djiboutique.be. Je te laisse la parole, Émeric.
Donc voilà, avec les rombes qu'on écoutait à l'instant, rombes des Indiens qui pourraient donner des idées, comme tu le disais, Paul, à des musiciens d'ici.
Exactement, en fait, hein, c'est vrai que toutes ces cultures, ces traditions musicales, bon, qui sont évidemment pas du tout faites pour être écoutées par un public extérieur. Il s'agit plutôt de communiquer avec les esprits, de créer une atmosphère rituelle particulière. Donc c'est pas une distraction, c'est pas une mélodie qui est faite au sens propre pour distraire du public, et donc nous on peut se dire oulala, mais c'est complètement inaudible ou complètement bizarre, mais tous ces instruments de musique, ben, finalement qui viennent des 6000 peuples minoritaires de la planète, c'est un énorme réservoir d'idées pour des artistes, des créateurs, des musiciens, des graphistes, etc. Alors sans faire du pillage, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est parfois dénoncé par les peuples minoritaires, il y a certainement à travers une rencontre plein de choses qui peuvent se passer. J'ai comme ça tout un tas d'amis à travers le monde qui sont des musiciens amérindiens, des peintres aborigènes, quoi, et qui collaborent avec des artistes du monde occidental et qui arrivent à faire des trucs fantastiques. Quoi.
Bah, tiens-nous au courant, en tout cas, si tu as des productions discographiques à diffuser, nous sommes friands. Hein.
Volontiers.
Moi, j'ai une toute petite question, si tu le permets, c'est vraiment assez court. Dernièrement, dans les médias, les peuples autochtones sont apparus assez en évidence, parce qu'avec une émission sur France 2, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais où on envoie une star dans une tribu autochtone. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est positif, c'est négatif ? C'est très émotionnel ?
Bon, personnellement, ça ne me plaît pas du tout, et je pense que ça amène pas mal de dangers. Je crois que c'est très populaire, il y a plein de gens qui m'en parlent en disant « Ah, c'est sympa, on a vu un tel ou une telle, etc. » Alors c'est vrai qu'il y a certainement du positif dans l'idée qu'on essaye quand même de faire découvrir un mode de vie, on essaye parfois de parler un tout petit peu d'une problématique, mais c'est quand même un petit peu léger sur cette approche-là. On va surtout montrer l'interaction et mettre en évidence l'artiste intéressé. Mais, bon, quelque part, je vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que c'est pas trop dramatique. Par contre, il faut savoir que Ikra, il y a quelque temps, s'est battu bec et ongles contre un projet de la société Endemol, donc qui produit tous ces shows de télé-réalité débilitants et dont il n'y a pas de terme pour les décrire. Et ils avaient eu l'idée de créer un espèce de jeu télé-réalité avec des petits peuples menacés, des derniers petits groupes de chasseurs-cueilleurs en Afrique ou en Amazonie. Et il s'agissait vraiment d'aller faire les clowns au niveau de ces populations, mais avec un énorme stress. Il faut savoir que ce qu'on ne voit pas quand on est téléspectateur, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est toute une équipe technique, une logistique, tout un tas de gens qui débarquent avec du matos, avec beaucoup d'argent. Il faut que ça aille vite. On va travestir la réalité, amener des questions d'argent, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et nous nous sommes battus contre, on a reçu je crois 14 000 signatures, une pétition qu'on a organisée en urgence, qui a fait capoter le projet. On a commencé à en parler dans la presse, dans les médias.
Ouais.
Et le projet a fort heureusement été abandonné. Un tournage avait déjà été réalisé au niveau d'une petite population de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie qu'on appelle les Hadzabe, et on a eu des échos comme quoi ça s'était passé très très mal pour les Hadzabe. Un très mauvais souvenir d'une très mauvaise rencontre.
Ok.
Alors pour rebondir, Endemol, c'est une grosse société. ICRA, on en a déjà un petit peu parlé. Votre site, c'est www.icra.com.
international.org. Donc ICRA, c'est ICRA tout simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est ce qu'on me pose comme question. C'est la Commission internationale pour les droits des peuples autochtones. Mais ICRA est en anglais, donc International Commission for the Rights of Aboriginal People. Donc ICRA international.org, un petit site qui fourmille d'infos. Il y a une newsletter sur laquelle on peut s'abonner. C'est évidemment tout à fait gratuit, comme toute la newsletter de la planète, je pense. Et qui vous tient au courant de ce qu'on fait. On a aussi, bien sûr, un très très chouette magazine qui s'appelle Ikawan, c'est un terme touareg.
Qu'on peut trouver où là? Parce qu'effectivement, j'ai vu ça sur le site cet après-midi, mais il faut s'abonner.
C'est pas simplement quelque chose qu'on trouve en librairie parce qu'on est une petite association tout à fait bénévole, mais les gens qui vont s'abonner, qui vont devenir adhérents, donc il y a une gradation, c'est à la rigueur 2,50€ par mois avec un petit ordre permanent, vous êtes adhérent. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et ça permet de recevoir le trimestriel qui est très bien fait, qui est thématique. Donc, on en a consacré régulièrement à différents peuples. Ça peut être les Tibétains, ça peut être les nomades de Mongolie.
Et l'actuel est sur la Colombie, si j'ai bien.
Exactement, parce qu'on travaille énormément sur les populations amérindiennes en Colombie. Et donc, on organise assez régulièrement des rencontres où on a des délégations de peuples autochtones, de Colombie d'ailleurs, qui viennent. Et on essaie de créer une rencontre. Et peut-être qu'un jour, on a l'occasion de faire une émission ensemble avec des délégués des peuples des forêts de Colombie. On viendra peut-être tous ensemble.
Fait. En tout cas, la porte était largement ouverte.
Ben, volontiers.
Et voilà, une question qui me brûle les lèvres. Alors, sur votre site dont on vient de parler, vous mettez très en évidence le fait que vous êtes indépendant. Alors c'est vrai que voilà, on pense tout de suite à des choses comme, je ne sais pas, la Commission européenne qui soutient la conversion d'huile, enfin les biocarburants, ce genre de choses, d'où il faut déforester, faire voilà. Donc ça c'est pour la Commission. Les multinationales, on les connaît un petit peu. Au niveau des États, on sait bien que la France est très copine avec Areva, par exemple, qui exploite de l'uranium au Niger, donc c'est difficile de chercher via peut-être les pouvoirs publics français, enfin, ou je ne sais pas quel organe, mais une aide de ce côté-là, parce que, enfin, je ne sais pas, comment est-ce que vous faites à ce niveau-là?
Ben justement, nous, on dépend exclusivement des cotisations de nos adhérents, donc on est quelques centaines d'adhérents en Belgique et en France principalement, aussi un peu en Suisse, et on vit avec ça, puisqu'on est totalement bénévole. Donc moi, tout ce que je fais par rapport à cette association, c'est totalement bénévole. On a d'autres boulots, quoi. On s'en sort comme on peut. On a tous un petit peu notre vie. On a pas mal d'étudiants qui sont très branchés, population, liberté, parce que finalement, ces peuples, c'est l'incarnation un peu d'une certaine utopie de vie avec la nature. Il y a une vision parfois un petit peu romantique, parfois pas toujours juste, mais quelque part, beaucoup de gens nous rejoignent en disant, mais on a envie de faire quelque chose parce que ces peuples, c'est la beauté, la couleur, la diversité du monde. Mais on n'a absolument aucun subside et on ne tient pas vraiment en avoir, parce que le jour où on acceptera des subsides d'un État, On va devoir faire attention à les conserver et donc on va devoir brider un peu notre parole. Ce que nous demandent finalement les peuples autochtones, c'est d'être leur porte-parole et ils n'ont pas, eux, leur langue en poche. Donc on doit assumer ce rôle et être totalement libre de le faire. Donc nous sommes volontairement apolitiques, non confessionnel, donc on n'a aucun lien avec quelque religion que ce soit. Ça ne veut pas dire non plus qu'on soit des athées convaincus ou quoi, donc on n'est pas non plus anti-religieux, mais on ne prend pas position en faveur de telle ou telle religion, de tel ou tel parti politique ou autre. Nous sommes indépendants pour travailler avec nos frères des peuples du monde qui, eux, veulent une certaine forme d'indépendance aussi quelque part, mais bon, je ne parle pas d'indépendance politique bien sûr, mais pouvoir en tout cas maintenir une partie de leur mode de vie et de leur dignité ancestrale.
Et vous êtes arrivé à ça assez facilement, enfin, cette décision de fonctionner comme ça.
C'était naturel parce qu'en fait, ICRA s'est créé au départ, il y a déjà plus de 20 ans maintenant, par des passionnés de voyage, des très jeunes gens qui avaient à peine 20 ans et qui ont commencé à découvrir les peuples du monde, qui ont commencé à faire de la photographie, des films documentaires pour témoigner de ces cultures. Et puis ces gens que nous allions, nous, photographier ou filmer, disaient « Mais attention, c'est vrai, on a des cultures et c'est formidable d'avoir des gens qui s'intéressent à notre culture. » C'est parfois des gens qui disaient « Mais ça n'est encore jamais arrivé d'avoir des gens qui viennent comme ça avec cet intérêt. » On nous a toujours dit « Non, il faut arrêter, vous êtes des arriérés. Hein, les professeurs dans les écoles interdisent aux enfants de continuer à suivre la culture traditionnelle. » On a enrégimenté les gosses, par exemple les enfants Sioux aux États-Unis, ben, ils ont été mis dans des pensionnats, on leur a dit interdiction de parler les langues autochtones, etc. Et puis vous venez en disant, mais c'est passionnant, il faut conserver ça. Mais un de nos gros problèmes, c'est qu'on nous tue, on nous emprisonne, on vient détruire nos terres pour faire des barrages, etc. etc. Et donc, il fallait absolument témoigner en disant, voilà, quand on a des amis qui se retrouvent torturés, emprisonnés, assassinés parce qu'ils sont membre d'une population autochtone, on se dit, ça suffit, il faut réagir, on va organiser des pétitions, on va faire du boulot avec eux, et c'est ce que nous faisons depuis quelques années, avec un certain succès.
Aymeric, je te propose qu'on donne les coordonnées de l'événement de dimanche, avec le programme, le jour et l'endroit.
Donc dimanche 7 mars, de 14h à 20h, ça se trouve au Sangor. Donc le Sangor, l'adresse du Sangor, c'est dans le piétonnier qui se trouve tout près de la place Jourdan.
Ouais.
Donc vous prenez la place Jourdan et vous verrez dans un coin, on va dire, en quelque sorte.
Ouais, les gens connaissent hein, l'espace Sangor. Il y a un piétonnier,
l'espace Sangor, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc le site aussi, www.sangor.be, où vous trouvez les infos qui concernent ce qui se déroulera ce jour-là.
Ok,
voilà.
Un téléphone peut-être pour info et réservation.
Donc le 02 ouais. 230 31 40 avec un mail info@sengor.be. Voilà, donc ça commence à 14h30 ce dimanche au Sangor.
Voilà.
Okay. Quelques petites pointes d'informations avant de se quitter hein, sur Djibouti. Bon, il y a la nuit des musées, Museum Night Fever, c'est ce samedi, c'est un assez gros événement qui vise quand même à mettre en valeur le patrimoine bruxellois. Les musées sont ouverts et c'est de 19h à 1h du matin. Ça vaut bien la peine d'aller faire un tour sur le site www.museumnightfever.be. Ça, c'est pour samedi. À midi, il y aura la marche des femmes qui commence à la bourse. Donc voilà. Et puis quelques autres événements, eh bien, allez faire un tour sur la toile. Nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. On vous annonce que notre émission de la semaine dernière, qui n'est pas passée sur antenne, sera rediffusée demain à 17h. Donc demain à 17h, okay. Nous avions reçu la chanteuse Mika, qui est venu présenter son dernier album Road of Life.
Et si vous n'êtes pas là demain, allez en écoute sur le site de Djiboutique, www.djiboutique.be. Tu as juste oublié de dire que la Chivagantiva jouait le samedi
dans le cadre de cette Night Museum.
Voilà, il joue donc le samedi à 22h. Chivagantiva, qui est un groupe qui mélange la musique traditionnelle colombienne et le rock et le hip-hop.
Voilà.
Alors, comme on est dans les mélanges, je vous propose qu'on termine avec un groupe qui s'appelle Foro in the Dark, que je pense que tu connais assez bien, et qui sont des Brésiliens qui habitent aux États-Unis, si je ne me trompe
ou
pas.
Ou au contraire, des États-Uniens qui habitent au Brésil.
Voilà, et donc qui mélangent le foro avec le rock et la live music de maintenant.
David Byrne est là derrière. Voilà, merci beaucoup Paul d'être venu nous présenter cet événement.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Voilà, merci.
Quem diz que meu baião tá embolado? Oi, quem diz que meu baião tá embolado? Farofa, caviar, só pode dar errado. Farofa, caviar, só pode dar errado. Quem diz que meu baião tá embolado? Oi, quem diz que meu baião tá embolado? Farofa, caviar, só pode dar errado. Farofa, caviar, só pode dar errado. A senhora lá da vila só pensava em misturar. Ela pegou meu baião e colocou pra embolar. O baião ficou doente, começou a vomitar. Me pediu uma água quente pra poder desembolar. Me deixe que eu quero desembolar. Oi, me deixe que eu quero desembolar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Me deixe que eu quero desembolar. Oi, me deixe que eu quero desembolar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Feito cola no sapato, feito chiclete no chão. Ela gruda no meu pé pra comer o meu baião. O meu baião não se come só porque tu vê na mesa. Ele pode até ferver em dia de quarta-feira. Nem tudo que olhou vê se come, nem a mão consegue alcançar. A levada do baião o pé consegue acompanhar. A mão consegue alcançar a levada.